Plaisir d'être là avec chacun d'entre vous et de vous voir. Je vois que tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas rentré encore, mais d'ici dimanche prochain, je pense qu'on sera tous là. Hein. Pour aujourd'hui, puisque c'est le premier dimanche du mois, donc ce ne sera pas dans 1 Thessaloniciens, mais un autre thème. Puisque nous sommes au début de l'année et c'est bien de bien commencer l'année. Alors j'ai un drôle de titre pour ma prédication ce matin. Et il n'est pas tiré de la Bible. C'est un sujet, bon, il est un peu lugubre, un peu triste. Mais bon, j'espère d'ici la fin qu'on aura une réponse. Alors voilà, maintenant que vous êtes curieux, c'est cette expression française qui est d'origine américaine, je crois, ou anglaise en tous les cas, et c'est un squelette dans le placard. Un squelette dans le placard. Et donc, en fait, c'est une expression pour dire que on a peut-être quelque chose de secret qui est caché, mais qui est mal caché. C'est dans un placard. C'est un squelette, donc c'est quelque chose d'un peu grave, mais c'est mal caché et ça risque d'être trouvé à tout moment hein, dans un placard, quand on cache dans un placard. Mais justement, souvent, les chrétiens sont freinés dans leur vie, des serviteurs de Dieu sont freinés dans leur vie parce que justement, il y a un squelette dans le placard. Et ça freine. Peut-être personne d'autre sait qu'il est là, mais lui sait. Moi, je sais qu'il est dans ma vie, dans mon cœur. Et donc, rien que parce que je le sais, je ne suis pas le même, je ne suis pas pareil. Et donc, je vais commencer avec le Ésaïe, chapitre 59, juste deux versets que je vais lire là. Ésaïe 59 et les deux premiers versets. Ésaïe 59 et versets 1 et 2. Il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Alors où est le problème ? « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêche de vous écouter. » Il dit, c'est pas que Dieu est loin, c'est pas que Dieu n'entend pas, c'est pas que Dieu n'intervient pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est plus comme avant, c'est plus comme à l'époque de l'Ancien Testament, ou l'époque d'Abraham, ou de Moïse. Le problème n'est pas là. Il dit, le problème, c'est chez vous. Il dit, c'est pas que la main de Dieu n'est pas trop courte pour t'intervenir. Son oreille n'est pas trop dure qu'il n'entend pas. Hein. C'est ça que Élie avait dit au prophète. Il avait crié plus fort, peut-être qu'il dort. Mais ce n'est pas le problème de notre Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui gênent. Hein, et nous le savons même dans la vie de tous les jours, avec quelqu'un que peut-être on a des bonnes relations, et puis tout d'un coup, on voit que la personne n'est pas pareille. Et pourtant, on la connaît depuis longtemps, on a été amis, on pouvait dire de moi, et puis d'un coup, je sens qu'elle n'est pas pareille. Eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait un petit quelque chose. Elle a été blessée par une parole, elle a été blessée, elle a pensé à quelque chose, ou elle a entendu quelque chose de chez quelqu'un qui a raconté, qui a dit, mais tu sais ce qu'il m'a dit, moi, toi tu ne le sais pas, mais voilà ce qu'il m'a dit sur toi. Ah bon ? Alors après, s'il y a un refroidissement, il y a un froid qui existe, et souvent, c'est un quelque chose. Et que ce soit du vrai ou pas vrai, à partir du moment que je le crois, c'est pareil. Hein. Donc, même dans les relations, on peut l'avoir, mais avec Dieu aussi. Hein. Quand il y a quelque chose qui n'est pas en règle, avec Dieu, quand il y a quelque chose qui existe, eh bien, ça met un froid. Et on s'approche pas, on n'approche pas de Dieu de la même manière quand on sait qu'il y a quelque chose. Pas plus que on ne s'approche pas de son Père de la même manière quand on sait qu'il y a une désobéissance. Je vais utiliser pas mal de récits bibliques que nous connaissons, mais relever des petits détails par-ci, par-là, pour illustrer ce principe, pensez à Moïse. Vous savez que Moïse était dans le palais de Pharaon. Il avait toute l'éducation de Pharaon, donc la meilleure éducation de l'époque. Et Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que Moïse a choisi de laisser le palais et les richesses de l'Égypte pour s'associer au peuple de Dieu. Donc c'était un grand acte de foi. C'était une démarche difficile pour lui. Et même Dieu a approuvé cette décision. Mais lorsque Moïse a été vers les Juifs, son peuple, un jour, il trouve un Égyptien en train de battre un Juif et il défend le Juif et il tue l'Égyptien. Et puis il le cache dans le sable. Hein, vous vous souvenez? Et alors, le lendemain, il vient et il trouve deux Juifs qui sont en train de se disputer. Et il dit, mes frères, ne vous battez pas. Hein, c'est dans Exode chapitre 2. Il dit, ne battez pas. Et vous savez ce qui... Il dit à l'un, il dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et l'autre répond comment? Mais qui t'a établi chef et juge parmi nous? Et toi, tu te prends pour qui? Toi, c'est depuis quand c'est toi qui fais la règle ici? Et tout d'un coup, Moïse, quand il a entendu ça, eh ben, très vite, il a fui l'Égypte. Pourquoi? Il avait fait un acte de foi. Il voulait servir Dieu. Il voulait délivrer son peuple. Il pense juste. Il pense bien. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas intervenir là? Bien, il a essayé de prendre les choses entre ses propres mains. Et puis il y a un problème. Parce que l'autre, il a dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et tout d'un coup, il est bloqué. Il n'a pas, il ne peut pas faire. Parce qu'il y a un cadavre dans sa vie. Et finalement, il a pris les choses entre ses propres mains. Dieu n'a pas pu agir parce qu'il y avait un problème. Et Moïse s'est trouvé tout seul. Le peuple ne l'accepte pas. Dieu n'est pas là. Il n'a pas préparé. Il est tout seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fuit. Il lui dit, bon, tant pis alors. Et puis, il s'en va. Et pendant 40 ans, il ne fera rien. Il sera berger. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Pour lui, il y avait un cadavre dans sa vie. Et le sable n'avait pas suffi pour le cacher. Il était mal caché. Quelqu'un l'avait vu. Même si lui, il avait regardé à droite, à gauche, avant de tuer l'Égyptien, mais quelqu'un l'avait vu. Caïn ne pourra rien faire dans sa vie, hein, pourtant il est le premier descendant, le fils aîné d'Adam et Ève, mais sa vie, il la passera vagabond, errant, il nous dit dans Genèse chapitre 4, toute sa vie, il sera un vagabond, un errant. Pourquoi? Parce que un jour, par jalousie, peu importe la raison, là je ne vais pas traiter la question ce matin, on pourrait voir plusieurs raisons, mais je ne vais pas traiter la question ce matin. Mais, peu importe la raison, mais il y a un cadavre dans sa vie et sa vie est inutile et il ne peut pas glorifier Dieu. Hein, il ne peut rien faire. Alors, ce genre de question est là et d'abord nous voulons voir un peu du point de vue de la personne qui a un cadavre dans sa vie, comment il vit sa vie. Et pour cela, eh bien, dans Genèse 42, Genèse 42, donc c'est la vie de Joseph. Joseph, on en a parlé un petit peu jeudi soir, mais dans Genèse 42, eh bien, nous arrivons au point où ses frères qui avaient vendu, hein, les fils de Jacob, avaient vendu leurs frères dans l'esclavage, et puis bon débarras, et puis voilà, et les rêves qu'il a eus, ben, ils ne vont pas se réaliser. On est tranquille maintenant. Mais bon, eux ne contrôlent pas les événements. Et après quelques années, ils sont obligés de venir en Égypte pour acheter de la nourriture, parce que ça manque. Et au chapitre 42, il nous dit, Jacob, voyant qu'il y avait, au verset 1, voyez qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Restez là, vous regardez les uns les autres, on va tous mourir. Et bougez. Hein? Les papas, ils disent ça, hein, de temps en temps. Il dit, j'ai entendu, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Alors les 10 frères descendent, parce que Benjamin, il reste à la maison, Joseph, il n'est pas là, donc il en reste 10. Les 10 fils de Léa descendent en Égypte pour acheter le blé. Verset 5, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Verset 6, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Bon, ils avaient toujours les mêmes tenues hein, qu'avant, tandis que lui, il n'a pas la même tenue. Donc eux ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les a vus tout de suite. Rien que la tenue, il a su qu'ils étaient juifs, et puis il a regardé la tête, c'est... Voilà. Mais il feignit d'être un étranger. Il a fait semblant de ne pas voir, et il leur a parlé durement, et puis voilà, il les a accusés d'être des espions. Et... Verset 9, hein, vous vous souvenez, quand se sont présentés, ils se sont tous prosternés le maximum, parce qu'ils veulent, là, il faut que c'est lui qui vend. Il faut que lui il soit prêt à nous vendre. Alors ils se sont prosternés, mais quelque chose de bien. Verset 9, il dit, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Mais il n'a rien dit. Et alors, vous voyez, il les traite d'espions. Et alors, verset 11, ils disent, non, nous sommes tous les fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Verset 12, il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Verset 13, ils répondirent, non, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Comme ça, voilà, c'est l'explication, elle est simple. Il y en a un, et il a disparu. C'est comme ça que, comment ils sont obligés de dire? Ils savent ce qu'ils ont fait. Et chaque fois qu'ils pensent Joseph, le père, il ne sait pas, il croit que ça a été, il a été mangé par des animaux, mais eux, ils savent. Et pendant toutes ces années, ils savent. Et chaque fois que le nom de Joseph apparaît, ils sont rappelés. Et ils sont obligés de dire, vous savez, quand on fait une bêtise, parfois on est obligé de mentir combien de fois? Et chaque fois que le père il dit, ah, Joseph. Eux, ils sont obligés de dire, oh, le pauvre. Ils sont obligés de... pour cacher. C'est-à-dire, si ils sont hypocrites au maximum. Pendant toutes ces années, ça cumule. Et quand ils parlent aux autres, ils disent, bah, il n'est plus. Voilà, on ne peut pas prouver qu'il est mort, on ne peut pas prouver qu'il n'est plus. Et là, justement, c'est celui qui n'est plus qui est en train de leur parler, et c'est devant lui qu'ils sont prosternés. Et alors... Je saute quelques versets là, mais Joseph, il met la pression, il met la pression. Et on arrive au verset 21. Parce qu'il va mettre en prison un des frères, et puis il dit, ou les autres, vous allez chercher le petit. Vous avez dit qu'il y en a un autre. Ben, allez le chercher. Comme ça, je saurai que si c'est vrai. Bon, lui, il veut voir son frère, c'est tout. Ça prouve rien du tout. Mais bon, voilà. Verset 21. Quand ils ont vu combien il a été dur avec eux, regardez au verset 21. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils se dirent alors l'un à l'autre. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, et quand il nous demandait grâce, nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Vous savez, quand on se sent coupable, tout d'un coup, on a l'impression que c'est tout à cause de ça. Tous les malheurs qui arrivent, ah oui, je sais, c'est à cause de ça. S'il m'est arrivé, oui, mais je vais. Et on pense à notre péché. La culpabilité nous fait interpréter tout de cette manière-là. Bon, eux, ils parlaient entre eux en hébreu, et ils croyaient que Joseph ne comprenait pas. Lui, il comprenait tout ce qu'il disait. Hein, il fait semblant de ne pas comprendre, mais il comprenait tout ce qu'eux disaient entre eux. Mais vous voyez, ils sont là. La première chose qui leur vient à l'esprit, parce qu'ils ont rencontré des difficultés, la première chose, c'est parce que nous, notre frère, quand il criait, ben nous, on n'a pas écouté. Maintenant, on est en train de payer. Voilà. Et peut-être ils se regardent l'un l'autre et disent, ouais, ben, c'est toi qui l'as vendu en plus. Moi, je voulais le sauver, c'est toi qui l'as vendu, c'est ta faute. Et puis, vous savez, ça met. Vous savez, bon, après, vous pouvez faire tout un film, hein, si vous voulez, avec ça. Parce qu'on connaît la nature humaine, ça marche encore comme ça aujourd'hui. Mais vous savez, quand il y a quelque chose de caché dans notre vie, et on pense que personne ne le sait, et peut-être que c'est vrai que personne ne le sait, mais nous, on le sait, et qu'est-ce qu'on en souffre ? Regardez là, avec moi le psaume 38. Le psaume 38. Parce que David, il en savait quelque chose aussi, hein, comme nous en savons quelque chose. Nous avons, en général, il y a très peu de gens qui traversent la vie sans avoir un cadavre quelque part. Parfois c'est des petits, parfois c'est des gros, mais l'effet est le même. La taille du cadavre, on peut se sentir coupable parce qu'on a pris un gâteau, comme on peut se sentir coupable parce qu'on a pris une moto, ou on a pris une voiture, ou on a volé une maison, ou on a tué quelqu'un. Hein. C'est pareil, la culpabilité, elle est là, et elle a le même effet sur nous. Le psaume 38, David qui parle, il parle en fait de celui qui a péché, et ce péché n'est pas réglé, et comment ça travaille dans sa vie. Je commence à lire au verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau et sont trop pesants pour moi. Dans un sens, on est épuisé par ce péché que personne d'autre sait, il n'y a que moi qui le sais, mais pour moi, ça devient un fardeau très lourd. Verset 9. « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. » Alors, ça travaille. C'est parce qu'il y a le péché, puis après, psychiquement, ça nous... Hein, là, il parle de la dépression, hein, de la déprime. Plus que la déprime, la dépression, carrément. Et verset 8... Bon, verset 7, il dit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. » Il y a quelque chose en moi qui est en train de ronger, qui est en train de... Et de l'intérieur, ça vient. « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Mes soupirs ne sont point cachés. » Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Il a dit, mon corps est épuisé, ma vue sur la vie, c'est plus la même, c'est la grosse déprime. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un péché qui n'est pas réglé. Dans la littérature anglaise, il y a Macbeth, hein, c'est un livre, c'est une pièce écrite par Shakespeare. Et là-dedans, il y a un roi qui a tué quelqu'un. Personne n'a vu, personne ne sait, mais ça fait partie de cette partie là où il est constamment en train de... Là où il va, tout d'un coup, il voit apparaître cette personne qu'il a tuée. Et il est surpris de la voir parce qu'il croyait qu'il l'avait tuée. Et tout d'un coup, il panique. Même de temps en temps, il regarde ses mains, il voit du sang sur ses mains, alors que personne d'autre, personne même le soupçonne. Mais lui, il est travaillé. ou bien dans la littérature, vous pourrez aussi voir un poème de Victor Hugo intitulé La conscience. Et justement, et là, il traite de Caïn. Caïn qui n'arrivait pas, il avait l'œil de la conscience parce qu'il avait tué Abel. Et il y avait cet œil qui le suivait partout. Il s'assied, tout d'un coup, il voit cet œil qui le regarde. Et donc, l'être humain, hein, c'est chez l'être humain, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui arrive aussi, c'est que celui qui a un squelette dans son placard, celui qui a quelque chose dans sa vie, eh bien, il va avoir un autre comportement sur ce point-là. Soit il va réagir de deux manières. Soit il va, dans ses discussions avec les autres, il va dire, oh, bon, c'est pas grave. Il va essayer, mais c'est pour lui, c'est pour sa propre conscience qu'il va essayer d'excuser. Il pourra pas être, il pourra pas condamner parce qu'il l'a fait lui-même, donc il peut pas le condamner. Et si c'est un prédicateur, il va être mou sur ce sujet. Si c'est un parent, il va être tolérant avec ses enfants, il va les laisser faire parce que lui, il a le même problème. Si c'est un employeur, eh ben, ce sera dur. Ou bien, le contraire, il va être doublement dur. Il va être très dur, mais c'est un peu pour cacher. C'est-à-dire, les gens, ils disent, finalement, on va jamais le soupçonner du problème. Pourquoi? Parce qu'il est très dur sur ce point-là. On dit, ah, oh, s'il est dur comme ça, c'est sûr qu'il l'a jamais fait. En fait, c'est pour cacher le fait qu'il l'ait fait. Donc, mais c'est une manière de cacher, c'est une hypocrisie, mais c'est une manière de cacher. Mais ce sont deux réactions. Et elles sont toutes les deux fausses. C'est-à-dire, soit la mollesse sur quelque chose de grave, et de dire, oh, ben, oui, bon, on a tous fait ça, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, de la mollesse, ou bien d'être trop strict. À un point, parfois, on devient légaliste, on devient. Et puis on commence à accuser tout le monde, alors qu'il y a d'autres péchés, on n'en parle pas. Mais celui-là, mais c'est en fait, c'est pour nous justifier. On pense à ce récit dans Genèse 38. Genèse 38, eh bien, il y a. J'oublie son nom. Je crois que c'est Judas. Oui, Judas, qui, bon, sans rentrer dans le détail, mais qui était en voyage et il a cru rencontrer une prostituée et il s'est avancé vers elle, il a commis le péché. Et puis après, il est rentré chez lui, et puis pas de problème, voilà. On va pas en faire ça, il rentre chez lui. Et après, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, eh bien, quelqu'un lui dit, tu sais, ta belle-fille, là, qui est veuve, eh bien, elle est enceinte. Ah bon? Ça, c'est grave, ça. Il dit, ça, il faut la sortir et on va la brûler, parce qu'elle a été infidèle. Alors il monte, il arrive à la maison, il dit, sortez-la, on va la brûler parce qu'elle a commis une grave faute. Et elle sort les éléments, les preuves que c'était lui. Tout d'un coup, hein, lui qui était là, il allait être très sévère, tout d'un coup, il est attrapé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Verset 30, 26, il va dire, non, arrêtez, elle est moins coupable que moi. Tout d'un coup. Mais il n'a pas pu, hein, ce qu'elle a fait, c'était mal, mais comme lui était coupable, eh bien, il ne peut pas exécuter. David, le roi David, avait un général, Joab, qui avait, depuis le début, hein, depuis qu'il était devenu roi, jusqu'à la fin, jusqu'à Joab, est resté après la mort même de David. Mais David savait que Joab, il avait déjà tué plusieurs hommes innocents. Et normalement, David aurait dû le juger. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que quand David a péché avec Bathsheba, cette Bathsheba, c'était le mari de Uri. Et mais David, pour cacher le problème, il avait demandé à Joab, il a dit, écoute, Uri, mets-le en avant pour qu'il se fasse tuer par l'ennemi. Et puis comme ça, après, je prends Bathsheba, je prends comme ma femme et personne ne le verra. Mais qui était au courant? Joab était le seul qui était au courant du petit complot contre Uri pour cacher le péché. Eh bien, David ne pouvait pas tuer Joab pour ce qu'il avait fait. Mais dire à son fils, Salomon, il dit, écoute, quand je serai mort, Joab, tu régleras les choses avec lui. Toi, au moins, tu as les mains pures. Toi, tu peux régler. Moi, je ne peux pas. Parce que lui, il sait quelque chose sur moi aussi. Vous savez, quand on a un squelette dans le placard, eh ben, même si les autres ne sont pas au courant, même si on n'est pas pareil, on ne peut pas traiter, on ne peut pas servir, on peut pas. On n'a pas la même vie devant ses enfants, on n'a pas le même témoignage devant les copains à l'école. Hein, tu veux dire, tu dois témoigner aux enfants. Mais eux, ils savent tout sur moi. Ils savent quelle bêtise j'ai fait l'autre jour ou l'année dernière. Et si je vais leur parler, je leur dis, écoutez, il faut venir à Jésus, il pardonne les péchés. Ils disent, oh, on connaît, toi. C'est à partir du moment qu'il y a quelque chose dans ma vie, après, je suis neutralisé. Je ne peux plus parler. Et donc, c'est des choses qui doivent être réglées. Alors, comment on peut faire cela? Eh bien, lisons dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, Jésus parle. En fait, il y avait une grande foule présente. Et puis Jésus s'adresse aux disciples. Donc il y a la grande foule. Il nous dit des milliers de personnes, hein, au verset 1. Au point que les gens s'écrasaient les uns les autres. Hein. Au verset 1, il dit, les gens s'étant assemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples. Voilà, il ne dit pas aux gens du monde, il dit à ses disciples. On connaît les problèmes dans le monde. Mais c'est parmi ceux qui se réclament de Jésus qu'il faut voir. Et il dit à ses disciples, avant tout, ça veut dire que c'est avant tout. C'est-à-dire que tu commences par là. Hein. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ah. Il a dit avant tout, la première chose à régler dans votre vie. Et il parle aux disciples. Hein. Il dit, la première chose à régler, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, vous faites semblant, vous marchez comme les pharisiens, et ils paraissent justes, tout le monde croit qu'ils ne font aucun péché, qu'ils suivent la loi exactement, et en fait, ce n'est pas vrai. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 8, hein, quand ils ont amené la femme prise dans l'acte adultère, ils l'ont amenée devant Jésus. Il dit, voilà, Jésus, voilà, on l'a pris dans l'acte d'adultère, on l'a attrapé, il y avait des témoins. Bon, ils n'ont pas amené les témoins, ni la personne avec qui elle commettait l'adultère. Hein, mais bon, ils l'ont attrapé dans l'acte. Vous savez ce que Jésus a fait? Vous vous souvenez, dans Jean chapitre 8, il s'est baissé, il a commencé à écrire par terre. Et les gens sont venus pour regarder ce qu'il a écrit. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Il a écrit. Et puis après, il a dit, vous savez, celui qui est sans péché, qui jette la première la pierre. Et après, il se baisse encore et continue à écrire. Et pendant qu'il était en train d'écrire, tout d'un coup, petit à petit, ces pharisiens disparaissaient. Et il nous dit dans Jean chapitre 8 et verset 9, hein, pourquoi ils partaient. C'est pas parce qu'ils ne savaient pas jeter les cailloux. Au verset 9, il dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Tout d'un coup, ce n'est pas ce que Jésus écrivait. Certains ont suggéré, peut-être il était en train d'écrire les péchés qu'ils ont commis. Et là, ils regardent. Moi, je croyais que personne n'était au courant. Et alors, il s'en va tranquillement. Jésus n'a rien dit. Et vous savez, la conscience commençait. On a cet œil, on a l'impression que... Oh, lui, c'est tout. Il a vu. Bon, je pars. Hein, comme disent les jeunes, je me barre. Hein, mais je me barre. Mais la question, c'était eux. Jésus dit à Zizi, écoutez, vous savez, quand il y a l'hypocrisie, vous faites semblant d'être quelque chose alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vie. Ce n'est pas la peine. Il dit avant tout, avant de continuer, régler ça. Parce qu'il continue, hein, je suis revenu à Luc 12, hein, verset 3 et 10. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu à la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans une chambre sera proclamé sur les toits. Il dit parce que ça, un jour, si vous ne le sortez pas, moi je le sors. Non, Seigneur, pitié! Il dit, ben alors, ben, tu le fais toi-même. Alors, après la question, bon, d'accord, mais Steve, et maintenant, comment on fait ça? Eh bien, bon, c'est pour ça, justement, qu'on soulève d'abord le problème. Et donc, Ésaïe, encore, je cite un passage de Ésaïe où il dit, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, c'est-à-dire pour les cacher de l'Éternel, dérober à son regard, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît ?» Et il y a des choses, c'est bizarre comment même un chrétien, il peut, dans sa chambre, il peut regarder quelque chose sur la télé, il n'y a personne, et il croit que personne ne va voir. Pourtant, il est croyant, il croit en Dieu, il croit que Dieu sait tout. Si on lui demande à l'église, on lui dit, Dieu, est-ce qu'il sait tout? Bah, il sait tout. Est-ce qu'il est partout? Oui, il est partout. Est-ce qu'on peut lui cacher quelque chose? Rien du tout. Et pourtant, on va dans la chambre et puis on va regarder quelque chose. C'est fou, hein, comment on est, les chrétiens. Mais il faut l'admettre. Il faut le reconnaître. Dire, bah, si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais alors? Parce que les gens du monde soient comme ça, c'est une chose, c'est les gens du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des choses à régler. Et c'est pour ça que... Et même il dit, comment ne plus avoir de squelettes dans le placard? Ben, il faut vider le placard. Après, il n'y en a plus. Ah, j'ai pas touché ça. Ah oui, je sais, mais bon. Il vaut mieux que toi, tu le sortes, que quelqu'un d'autre vienne te le sortir. Et puis, te le jette à la figure. Alors... C'est là où, justement, le sang de Christ, c'est la réponse. C'est pour ça que je ne soulève pas le problème sans... Hein, je ne parle pas du cancer sans avoir un remède. Et Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, la question, c'est que le problème, c'est pas de tout d'un coup sortir le placard, voilà, devant tout le monde, et dire, hey, venez voir, j'ai un truc dans mon placard, venez tous voir. C'est pas la question. La première chose, c'est déjà que moi, je l'admette, que je le confesse devant Dieu, et que je le règle. Comme David l'a réglé. Regardez le psaume 32. C'est là où David, vraiment, son prêché avec Bathsheba est là. Hein, donc, psaume 32. C'est un péché, un gros péché, qu'il avait tellement bien fait que, en fait, à part Joab qui savait comment, pourquoi Uri est mort, sinon il n'y a personne qui est au courant. Hein. C'était très, vraiment bien caché. Et même si Nathan le prophète a su, c'est parce que Dieu lui a dit. Hein. Sinon, personne. Hein. C'était vraiment bien fait. Mais regardez le psaume 32. Et, David commence. Heureux celui à qui la transgression est remise. Déjà, il nous donne le point positif. Il dit, oh. Vous savez, il a dit, heureux celui qui a réglé la chose. Il va parler de ce péché, péché grave. Mais il commence par dire, ah, quel soulagement une fois que c'est réglé. Hein, donc c'est un encouragement. Hein. C'est heureusement qu'il commence comme ça. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans le placard. Les placards sont n'importe propres. N'importe qui peut venir ouvrir les placards, ça ne me dérange pas. S'ils ne vont rien trouver. Il dit, heureux cet homme-là. C'est-à-dire, il est en train, déjà en train de dire que c'est possible. Hein, parce qu'en lui, on sait qu'est-ce qu'il a comme, comme squelette dans son placard. Mais regardez au verset 3, il dit, voilà ce que je vivais tant qu'il était là, tant que ce n'était pas réglé. Au verset 3, il dit, tant que je me suis tu, c'est-à-dire je ne parlais pas, mes os me consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il dit, voilà ce que je vivais. Tant que ce n'était pas réglé, il dit, je savais, personne ne le savait. Bon, peut-être que chaque fois que quelqu'un le regardait, il se disait, est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Est-ce qu'ils savent quelque chose? Pourquoi ils me regardent comme ça? Mais ça, c'est sûr. Hein. Mais il dit, alors on essaie de faire la série, ah non, ça va. Puis on essaie de faire passer la chose, mais dedans, je sais, hein, j'ai un gros problème. Et la peur terrible, c'est qu'un jour, on découvre. Je me rappelle une fois, j'avais menti à mon père. Je pensais avoir très bien caché la chose. Bon, j'avais le sentiment que mon père, il ne m'a pas cru complètement. Parce que la manière dont il posait les questions, par moi, il n'était pas convaincant. Mais moi, j'essayais de vous savez comment c'est quand on voit qu'il n'est pas convaincu, on dit, mais si, je t'assure, il n'y a pas de problème, ne passe pas, hein, non, c'est vraiment comme ça. Hein. On insiste plus, et plus on insiste, plus l'autre il se dit, ah, il y a quelque chose. J'avais pensé que j'avais couvert. Mais quelques semaines plus tard, il me dit, ça vient d'où? Et vous savez ce que mon père m'a dit? Il m'a cité un verset biblique. Sachez que votre péché vous atteindra. C'est ce verset-là. Tous les autres versets de la Bible, quand je veux les apprendre, je dois les répéter plusieurs fois. Celui-là, j'ai entendu une fois, il est resté là. J'étais adolescent, donc ça fait plus de 50 ans, et bien je m'en souviens encore. Et je pense à ça chaque fois, hein, je vois ce verset, nombre 32, 23. Et bien quand je pense à ce verset, je pense toujours à ça. J'avais un jeune à Saint-Denis qui avait dit une fois, il avait un carnet de correspondance qui était terrible. Il voulait le faire disparaître parce qu'il, pour ne pas le faire signer. Et il l'a caché dans la gouttière de la maison. Il l'a caché dans la gouttière, c'est un endroit où personne ne va. Mais il a dit, manque de peau. Excusez-moi l'expression, mais c'est le langage de tous les jours. Il a dit, papa, il a décidé, le lendemain, il a décidé de nettoyer les gouttières. Et puis, bien sûr, il a trouvé, il a dit, ça vient d'où? Parce que lui, il avait raconté qu'il avait perdu. Et puis, il dit, ah bon, tu l'as perdu? Comment, dans la gouttière? Comment tu as perdu dans la gouttière? Mais vous savez, bon, on l'a tous vécu, hein, c'est pour ça qu'on rit. Mais la question, c'est on est là, on vit la chose, c'est désagréable. Mais là, verset 5, voilà comment David s'est soulagé. Il a dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il n'a pas été mettre ça dans le journal pour tout le monde. Tout le monde n'était pas au courant, mais il l'a confessé à celui qui était au courant. Il l'a reconnu. Il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Verset 6, il dit, qu'ainsi, tout homme pieux, il dit, voilà, maintenant la règle pour vous tous. Qu'ainsi, de cette manière-là, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Et puis, tout d'un coup, tout va mieux. Mais la question, c'est de l'admettre, pas le cacher. On ne cache rien devant Dieu, mais on essaye quand même. Mais de lui dire, Dieu, je sais, j'ai péché. J'ai mal agi. Je te demande pardon. Je veux que tu nettoies ma vie. Et il vient avec nous. Et puis, il enlève le cadavre du placard. Bon, c'est vrai que s'il y a d'autres personnes qui sont au courant, c'est de voir avec eux. Mais de régler la chose comme ça, on est libéré. Vous savez, je vous rappelle l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus l'a rencontrée à quelle heure de la journée? À midi. Pourquoi à midi? Les femmes n'allaient pas chercher de l'eau au puits à midi. Elles allaient le matin, elles allaient le soir. À midi, elles n'allaient pas. Ben justement, c'est pour ça qu'elle est allée à midi. C'est pour ne rencontrer personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait au moins un cadavre dans sa vie. Et peut-être plusieurs. Jésus lui a dit, il en a dit assez pour qu'elle comprenne qu'il savait tout. Mais, vous voyez, elle, sa vie est perturbée, elle ne peut pas vivre normalement, elle ne peut pas être avec les autres femmes, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cadavre dans sa vie. Jésus l'a rendu service quand il a soulevé la question. Ce n'était pas agréable, certainement, pour la femme, parce qu'elle a dit, « Oh, je vois que tu sais tout. Hein, » Mais après, mais vous savez ce qu'elle a dit quand elle est rentrée au village? Il a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, elle n'a plus peur. Pourquoi? Parce que c'est réglé. Et elle peut en parler, pas forcément, mais elle peut dire, Dieu m'a tout pardonné. Mes placards sont tous nettoyés. Venez. Et là, tout d'un coup, celle qui devait éviter les gens, qui longeait les murs, eh bien maintenant, elle va dire, venez. C'était un soulagement et délivrance. Vous savez, c'est pas les enfants de Dieu, c'est pas des gens qui sont pas pécheurs. C'est des pécheurs qui ont réglé le problème. C'est tout, c'est ça la différence. Et vous savez, le Seigneur veut le faire pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça au début de l'année. Voilà, on veut une bonne année, c'est facile de dire bonne année, les gens, n'importe qui, le gars qui il est dans le malheur dit bonne année, n'importe qui dit bonne année, et puis si toi dis pas bonne année, il se fâche, mais sinon ça veut rien dire. Mais si je veux une bonne année, eh bien je fais le ménage, j'enlève les placards, et après là, je marche. Quelqu'un me dit, tu sais toi, moi je sais comment tu es, je dis, écoute, tu crois que tu sais, en fait, c'est pire que ce que tu penses. Moi, je sais tout sur moi. Vous savez, le gars, là, il a pris, il ne peut plus. Quand il vous dit, moi, je sais, et toi, tu es un peu hypocrite. Et alors, si je me fâche, eh bien, justement, il a réussi. Mais si je dis, écoute, tu n'en sais rien. Il n'y a pas que l'hypocrisie, mais il y a pire que ça. Hein. Mais le Seigneur m'a pardonné. L'autre, il ne peut pas, il n'a plus rien, il est désarmé. Quand je peux dire, mais tu sais, tous mes péchés sont pardonnés, c'est pas que parce que je n'ai pas de péché, je ne fais pas semblant d'être un bon, je suis un pécheur. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il pouvait écrire dans la lettre que les gens allaient lire pendant 2000 ans. Il disait, moi j'étais violent, j'ai persécuté l'Église. Il a dit, pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'a pardonné. C'est pour ça qu'il a pu le dire. Et nous pouvons régler cette chose. Et nous pouvons exécuter nos responsabilités. Achan, c'est quelqu'un qui a refusé de confesser son péché, hein, dans Josué chapitre 7. Il n'a rien dit. Dieu dit, mais il y a quelqu'un qui a péché, il y a le péché dans le camp. Et puis lui, jusqu'au jour où il est attrapé, puis il dit, j'ai volé, oui, je ne devais pas. Oui. Et bien, après là, c'était le jugement, il n'y a plus la grâce. Hein. Tandis que si on vient avant, eh bien, Dieu accorde la grâce du pardon. Alors, et c'est là le contexte du verset de Jean 1, 9. Hein, c'est une lettre, Jean s'est adressé, 1 Jean 1,9, s'est adressé aux chrétiens, c'est pas adressé au monde. Il dit, si nous confessons nos péchés, il parle à des croyants. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le Seigneur peut nous délivrer. Et après, moi, je ne souffre plus autant au-dedans de moi. Et je suis libre, et Dieu aussi est libre de se servir de moi. Et donc, c'est très important. Jésus a dit à ses disciples, il dit « avant tout ». Et c'est par là qu'on doit commencer. Et c'est pas la peine de faire semblant. On règle les choses. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. La Bible ne nous enseigne pas d'aller confesser nos péchés à un être humain. On les confesse à Dieu. On peut demander l'assistance de quelqu'un, mais sinon c'est à Dieu qu'on confesse, parce que c'est comme David a dit, c'est contre toi premier que j'ai péché, et ensuite contre Uri. Mais d'abord j'ai péché contre toi. Le fils prodigue, il dit à son père, il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Hein? Donc le Seigneur veut, et c'est un principe important, mais c'est une vérité qui délivre. Hein? Et le chrétien qui est accablé, eh bien, il peut relever la tête, tout comme la femme samaritaine a pu relever sa tête. Et finalement, depuis, on pense que du bien d'elle, parce qu'elle a réglé la chose. Que le Seigneur nous aide, déjà pour nous-mêmes, et ensuite, si le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir aider quelqu'un d'autre, encourager quelqu'un d'autre, eh bien, que nous puissions leur faire part de cette vérité qui vraiment délivre et soulage. Et puis, autrement, je remercie le Seigneur. Quand on est exposé à l'Évangile et à la parole très tôt dans notre vie, on peut éviter beaucoup de choses que des gens du monde... Bon, ils obtiennent le pardon, mais le souvenir reste, c'est sûr. Hein. Dieu peut nous pardonner, mais le souvenir de ce qu'on a fait reste avec nous tant que nous sommes sur terre. Mais il sera enlevé quand on sera dans la gloire. Il n'y aura plus de souvenirs de nos péchés. Voilà, que le Seigneur nous aide, et nous allons prier. Père céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants à toi pour ce message de délivrance pour ceux qui croient. Et Seigneur, c'est pas pour seulement ceux du dehors, c'est pour ceux du dedans. Et Seigneur, aide-nous. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais quelles sont les choses que nous pouvons porter. C'est pas une question de la gravité de la faute. C'est une question du fait qu'il y a un cadavre dans le placard et qui gêne l'Esprit de Dieu. Et Père, on peut faire du bruit, on peut faire toutes sortes de choses, mais tant que ce n'est pas réglé, on ne vit pas pareillement. Et David le savait, il a souffert. Père, aide-nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.